12h30 et jusqu'à 13h, votre journal de la mi-journée sur Europe 1. C'est avec Fabienne Lemoyle. Aujourd'hui, Fabienne, on vous retrouve en direct du Salon de l'Agriculture.
Eh oui, bonjour Marlène, bonjour à tous. Vous l'entendez effectivement, je suis au cœur du Hall 1 où Europe 1 a pris ses quartiers depuis hier au Salon. Superbe studio, vous êtes d'ailleurs tous les bienvenus sur le stand de France Terre de Lait. Nous sommes juste à côté, à quelques mètres de l'une des stars du Salon, la mascotte, la vache bleue du Nord Imminence. Dans quelques instants, on parlera des défis auxquels doit faire face ce monde agricole avec deux invités. Patrick Morin, il vient de parcourir à pied 250 km pour alerter sur la souffrance des agriculteurs. Un suicide tous les deux jours. Il nous racontera ce qu'il a dit hier soir à Emmanuel Macron. C'était ici même au Salon. Et puis Jérôme Leroy, patron de la start-up Winat, pour nous plonger au cœur de l'agriculture connectée. Mais d'abord, nous allons bien sûr passer en revue des temps forts de l'actualité du jour. Les incendies en Corse, toujours en cours avec 1300 hectares déjà partis en fumée. Si tout le monde payait l'impôt sur le revenu, piste lancée par la ministre de la Cohésion des Territoires, qui revient souvent dans le grand débat national, car seul un Français sur deux paye cet impôt. Les agressions sexuelles contre les enfants comparables au sacrifice des rites païens, déclaration ce matin du pape François à Rome. Nous serons sur place. Le journal d'espoir avec la victoire du 15 de France face à l'Écosse qui fait du bien. Et puis la météo, toujours grand bleu, nous dira Valérie Darmon.
Europe 1.
Et je vous le disais, on commence ce journal avec ces feux en Corse qui ont déjà ravagé près de 1300 hectares, des incendies qui ont débuté hier soir, principalement dans le nord de l'île, et contre lesquels les pompiers luttent toujours, Yasmine Akatou.
Oui, et les feux sont tellement violents que la fumée envahit les alentours. Guy a pris sa voiture pour vérifier si l'habitation d'un ami était hors de danger. Il était à quelques kilomètres, selon lui, des flammes, une distance qui ne l'épargne pas d'un épais brouillard de fumée.
Là, on est dans la fumée, là, où je suis, là. Là, ça brûle bien, hein. Parce qu'on voit bien la fumée épaisse qui sort de la forêt. Là, les gendarmes qui empêchent les voitures de monter, de prendre la route de la forêt, justement. Non, mais là, moi, je fais demi-tour, là. J'espère que ça ne va pas traverser la rivière, parce que là, pour l'instant, c'est côté Calenzane. Ça ne va pas traverser la rivière.
Deux Canadairs sont arrivés de Nîmes il y a moins d'une heure pour tenter de maîtriser l'incendie de Canzana. Un troisième doit arriver vers 13h. Le préfet de Haute-Corse évoque des éco-buages mal maîtrisés, une pratique qui consiste à brûler les racines pour fertiliser les terres. Pratique que déplore le préfet Gérard Gavoury.
Malgré les consignes que j'avais données, ne pas procéder à des éco-buages, compte tenu des forts vents et du risque de propagation. Donc, quand c'est pas maîtrisé, le feu se propage, hein, compte tenu des vents très violents. Donc, quand on est en période estivale, les éco-buages sont bien évidemment interdits. Mais là, on est dans une période où ils ne sont pas interdits, a priori.
Et dans un tweet, Christophe Castaner a apporté tout son soutien aux sapeurs-pompiers de Corse.
Ici, Yasmina Katou. Et si tout le monde payait l'impôt sur le revenu, piste lancée ce matin par la ministre de la Cohésion des Territoires dans le journal du dimanche, seul un Français sur deux paye actuellement cet impôt, une idée qui risque de faire du bruit en plein grand débat national, Adrien Beck.
Oui Fabienne, d'autant que la fiscalité est l'une des raisons de la colère des Gilets jaunes. Alors comme réponse, Jacqueline Gourault préconise un impôt sur le revenu pour tous, y compris les plus modestes, dit-elle, même 1 euro, pour, selon la ministre, redonner à chacun le sens de l'impôt qui est un acte citoyen. Alors, est-ce une idée personnelle de Jacqueline Gourault ou une piste de travail du gouvernement? Ce n'est pas à l'étude, rétorque-t-on ce matin à Matignon, où l'on rappelle que les Français paient déjà l'impôt dès le premier euro avec la CSG, qu'ils paient tous la TVA. Même frilosité au ministère de l'économie, où un poids lourd de Bercy demandait il y a quelques jours d'arrêter de jouer avec l'impôt, d'arrêter de lancer des idées. Dans l'entourage d'Édouard Philippe, on rappelle ce matin, comme un message au ministre, qu'il y a plein d'autres sujets à mettre au débat que celui de la fiscalité. Fin décembre, une députée de la majorité avait déjà lancé l'idée d'un impôt sur le revenu payé par tous, avant, dans la foulée, de rétropédaler.
Adrien Beck du service politique d'Europe 1. Alors parmi les réactions à cette idée lancée par Jacqueline Gourault, celle de Pierre Moscovici, commissaire européen aux affaires économiques, mais surtout ancien ministre de l'économie. Pour lui, il n'y a vraiment pas urgence à toucher à l'impôt sur le revenu.
Je pense que la première chose à faire, c'est de ne pas trop toucher à la fiscalité. Vous savez, il y a cette question de l'ISF, qui semble-t-il est tabou dans le débat. Je comprends pourquoi Emmanuel Macron a voulu réformer l'ISF, parce que tel qu'il était, il n'était pas parfait. Et je comprends aussi pourquoi, du coup, on ne souhaite pas le rétablir. Mais vous ne parviendrez pas à rétablir le consentement à l'impôt des plus pauvres ou des classes moyennes dans ce pays s'ils ont le sentiment que les plus riches échappent à l'impôt. Justement. D'une façon ou d'une autre, il faudra, je crois, que cette question soit traitée. Et qu'en effet, à la sortie du débat, il y ait des mesures qui fassent en sorte qu'il y ait un signal que les plus riches sont amenés à contribuer davantage à la solidarité nationale.
Pierre Moscovici qui est un invité du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos ce matin. Alors vous le savez, nous sommes en direct du Salon de l'Agriculture. Mes invités viennent d'arriver, beaucoup de monde autour de nous. On est venu en famille puisqu'on est dimanche. On rejoint Hall 5, Maude Descamps. Depuis ce matin, Maude, très tôt, vous nous faites découvrir les coulisses du salon. Et alors là, vous nous avez déniché de drôles d'animaux parce que moi, franchement, j'étais persuadée qu'au salon, on ne trouvait que des moutons et des vaches.
Ah oui, je peux vous dire qu'on est loin de l'univers des Primolstein et des blondes d'Aquitaine, là, Fabienne. Devant moi, eh bien, il y a des lamas, des chameaux, des zébus, il y a des dromadaires. Et ça, bien évidemment, ça surprend plus d'un visiteur.
On n'a pas l'habitude de voir des races comme ça. Ça a l'air rustique.
On n'a pas toujours l'occasion de voyager dans le monde, mais c'est une façon de voyager aussi. C'est très joli.
Je ne m'attendais pas du tout à ça, effectivement. C'est la première fois que je vois un chameau. Mais je crois qu'il m'aime bien. Je crois qu'on va devenir amis tous les deux.
Bah, il a raison, hein, ce visiteur. Il y a de fortes chances qu'il fasse copain-copain avec le chameau parce que figurez-vous que c'est une des caractéristiques de cet animal. Il aime être au contact de l'homme. Écoutez, Julien, c'est son éleveur.
C'est plus câlin qu'un cheval. C'est un animal qui a besoin de compagnie. Et il nous assimile à lui-même. Donc c'est un animal très bien dans sa tête et qui forcément vient vers les gens. C'est curieux, c'est intrigué et ça en fait du fait un animal super sympathique.
Voilà, alors si vous êtes un peu téméraire, Fabienne, eh bien je vous invite à passer une tête au pavillon 5 cet après-midi. Vous pourrez goûter du lait de chameau. C'est plein d'oméga-3, m'a-t-on dit, donc c'est excellent pour la santé.
Bien noté, j'ai déjà croisé de drôles d'animaux quand même, qui pour moi déjà des salers qui sont énormes et qui effectivement qui déambulent au milieu des allées du salon. Merci beaucoup Maude Descamps. Dans un instant, nous partons à Rome où on est en train de s'achever le sommet sur les agressions sexuelles au sein de l'Église.
Il est 12h38, la suite du journal en direct du Salon de l'Agriculture, c'est avec vous Fabienne Lemoyle.
Les agressions sexuelles contre les enfants sont comparables aux sacrifices des rites païens. Déclaration du pape François ce matin à Rome, des mots qui visent à marquer les esprits. Virginie Riva, vous êtes l'envoyée spéciale d'Europe 1 au Vatican, mais qui sont pourtant bien en deçà, Virginie, de ce qu'on pouvait attendre pour clore ce sommet.
Oui, car le pape a commencé son discours par un tableau historique et géographique de la pédophilie pour souligner que c'est un fléau qui a toujours existé partout. C'est dans cette perspective qu'il compare les abus sur mineurs aux sacrifices païens. Problème, cela a tendance à diluer la responsabilité de l'Église. D'ailleurs, dans son discours, les abus sexuels commis dans l'Église spécifiquement n'arrivent que très tard, après avoir insisté sur le fait que les abus se déroulent d'abord dans la famille, avec les éducateurs ou dans le sport. Après cela, le pape réaffirme néanmoins avec force sa volonté de lutter dans l'Église contre la pédophilie. Il détaille les mesures à prendre, basées sur les bonnes pratiques formulées par l'Organisation mondiale de la santé et enrichies du travail de ces trois jours.
Doivent toujours être présents devant nos yeux les visages innocents des petits. L'Église ne se ménagera pas pour faire tout ce qui est nécessaire pour livrer à la justice quiconque aura commis de tels délits. L'Église ne cherchera jamais à étouffer ou à sous-estimer aucun cas.
Alors déjà à l'extérieur du Vatican, les associations de victimes font savoir qu'un tel discours est bien en deçà de ce qu'il a déjà pu dire. Elle semble ne pas comprendre comment, après trois jours de travail intense sur ce sujet, le résultat peut être celui-ci. À voir si cet après-midi, le Vatican annonce des évolutions, notamment dans le droit canon, comme il nous l'a été annoncé hier.
Virginie Riva, envoyée spéciale à Rome pour Europe 1. Direction maintenant la frontière entre la Colombie et le Venezuela. Violent heurt hier, alors que l'opposition vénézuélienne voulait faire entrer l'aide humanitaire chargée à bord de plusieurs camions au Venezuela. Au moins 285 personnes blessées selon les autorités colombiennes et le président autoproclamé Juan Guaido qui en appelle à la communauté internationale.
Je demande à la communauté internationale de garder toutes les options sur la table. Lundi, je participerai à une réunion avec tous les dirigeants de la région, ainsi que le vice-président des États-Unis, Mike Pence, pour étudier de possibles actions diplomatiques pour coopérer. Ma responsabilité comme président par intérim, c'est de rechercher ces soutiens, d'exiger que l'aide entre au Venezuela et d'étudier les chemins vers la démocratie pour que cesse l'usurpation. Et j'ai confiance. Nous allons nous battre jour après jour et nous rechercherons les appuis nécessaires pour mettre fin à la tyrannie.
Juan Guaido devant l'envoyé spécial d'Europe 1, Sébastien Krebs. Réponse immédiate des Américains par la voix du secrétaire d'État Mike Pompeo. Les États-Unis vont passer à l'acte pour soutenir les besoins du peuple vénézuélien désespéré. Voilà ce qu'il a écrit cette nuit sur Twitter. Et puis en Algérie, de nouveaux rassemblements prévus aujourd'hui pour s'opposer au cinquième mandat brigué par le président Bouteflika. Vendredi, ce sont des dizaines de milliers de personnes qui sont descendues dans la rue. Vous le savez, Europe 1 vous accompagne à la montagne tout le week-end. Alors on a pris le train, puis la navette hier pour monter en station avec vous, Hélène Terzian. Vous avez chaussé les skis à l'Alpe d'Huez et après l'effort, le réconfort, vous êtes attablé au restaurant d'altitude.
Et oui, le restaurant d'altitude, c'est l'étable incontournable des skieurs. Le moment de se restaurer dans un paysage époustouflant et d'avoir dans son assiette un plat réconfortant. Les premiers skieurs arrivent. J'ai par exemple demandé à Briac, 16 ans, attablé avec ses parents, ce qu'il avait envie de manger.
Un plat à base de fromage, accompagné de charcuterie. Avec un truc qui cale bien quoi, avant de reprendre le ski. Tortiflette ou une croziflette ou une boîte chaude.
Quelque chose me dit que Briac va être servi. Derrière les fourneaux, j'ai rencontré le chef, Jérémy, et voilà ce qu'il prépare.
Je vais vous montrer. Voilà, c'est une grosse tartine. Donc ça fait un peu voilà, le plat montagnard.
Bien pour les skieurs.
Voilà, et que je passe au four. Et en fait, je termine de gratiner à la salamandre. En fait, c'est un fromage qui gratine très très bien. Voilà, en dessous, je mets un peu de crème fraîche épaisse aussi. Donc ça, c'est la grosse tranche de pain. Vraiment la grosse miche type montagne, on va dire.
On va goûter la tartine.
Eh ben ça, avec pas de soucis.
Après le reportage radio.
Eh ben ça marche.
De quoi reprendre les forces avant de reprendre le télésiège et dévaler de nouvelles pistes.
Merci beaucoup Hélène Terzian. Et autour de nous, ici au Salon de l'Agriculture, je peux vous dire qu'il y a de quoi manger aussi, et bien manger.
Le journal des sports.
Avec Julien Froment. Bonjour Julien.
Bonjour Fabienne.
Allez, on commence par le rugby, le tournoi destination, et quel ouf de soulagement pour le 15 de France.
Oui, ce n'était que l'Écosse en face, mais c'est une victoire qui fait du bien. 27 à 10, 4 et 16 inscrits par les Bleus, synonyme donc de bonus offensif. Plusieurs satisfactions, la classe biberon tout d'abord, les jeunes ont répondu présent avec notamment les essais d'Aldrit et de Ntamack. Et puis un Stade de France plein qui a soutenu les Bleus, c'est ce qu'a voulu retenir le capitaine Guillaume Guerrado.
Ça fait du bien de retrouver le Stade de France aussi plein. On ne s'attendait pas forcément à ce qui est... autant de bruit, et donc voilà, ça fait plaisir, une belle victoire, et surtout ce que je retiens le plus, c'est un bel état d'esprit, et comme j'ai dit, surtout la valeur des hommes, parce que ça a été une semaine assez compliquée, agitée, beaucoup de remises en question, et dans ces moments-là, c'est beau qu'on peut s'apercevoir du caractère des hommes, et j'en suis fier, et j'ai pu leur dire surtout.
Guillaume Guerrado au micro de Simon Rubin. Le 15 de France a désormais quelques semaines pour recharger les batteries avant de défier un adversaire bien plus coriace. Ce sera l'Irlande le 10 mars. Les Irlandais justement qui se déplacent aujourd'hui en Italie. Match à 16h.
Allez, on passe au football. Julien, 26e journée de Ligue 1 et Kylian Mbappé qui n'en finit plus d'effacer les records.
Et oui, le Français de 20 ans a inscrit 2 des 3 buts parisiens contre Nîmes hier. Succès 3-0. Kylian Mbappé devient le plus jeune joueur de l'histoire à franchir le cap des 50 buts en Ligue 1. Et encore hier, il a raté quelques occasions. Son entraîneur Thomas Tuchel l'a excusé à la fin de la rencontre.
Il aurait pu marquer plus hein, aujourd'hui. Mais il est un peu fatigué, il en manque un peu de précision et les décisions ne sont pas sur les meilleures décisions avant le but. Les jeunes, ils jouent beaucoup, peut-être un peu trop dans cette phase, mais il fait très très bien et il est un joueur exceptionnel. Oui, c'est bien.
Voilà, c'est très bien Thomas Tuchel, l'entraîneur du PSG. Hier dans la course au maintien, victoire précieuse de Guingamp contre Angers 1-0 et d'Amiens face à Nice également 1-0. Cet après-midi, plusieurs rencontres et notamment Rennes qualifié pour la première fois de son histoire en 8e de finale de la Ligue Europa qui reçoit l'OM, Marseille qui renaît grâce à un homme, Mario Balotelli, 3 buts en 4 matchs. L'entraîneur olympien Rudy Garcia est sous le charme, mais vu le passif de Super Mario, il le surveille comme le lait sur le feu.
Son intégration est bonne, c'est sûr. Pour l'instant, tout se passe bien. Il marque des buts. Et pour l'instant, je l'ai dit, c'est un vrai plaisir d'avoir un joueur d'une telle qualité. C'est un joueur aussi qui est non seulement intelligent. Voilà, après, moi, il le sait, on a beaucoup parlé. Moi, je reste vigilant et je suis là pour l'aider dans les bons moments comme dans les moins bons moments. Espérons qu'on ait que des bons moments jusqu'à fin de saison, mais on ne sait pas. L'avenir nous le dira.
Rudy Garcia avec Yann Theroux, Rennes-OM à 17h. Ce soir, le choc à 21h. Monaco-Lyon à suivre sur Europe 1. Et juste avant ce match, de 20h à 21h. Nouveau rendez-vous sur Europe, le studio des légendes. Autour de Lionel Rousseau, Giroud, Charles Villeneuve, Charles Biétry ou encore Jean-Claude Perrin seront réunis autour de la table pour parler de l'actualité football. Rendez-vous donc ce soir à 20h sur Europe 1. Enfin, un mot de football anglais. On vient de l'apprendre, Claude Puel n'est plus l'entraîneur de Leicester. L'ex-coach de Nice paye les mauvais résultats des Foxes. Une série de 6 matchs sans victoire en Première Ligue.
Merci beaucoup Julien Froment. Il nous reste à voir le temps que nous réserve ce dimanche. Et en un mot, Valérie Darmon, eh bien c'est bleu sur la majeure partie de la France.
Tout à fait Fabienne, même parfaitement bleu, excepté quelques nuages qui font de la résistance sur le Poitou-Charentes et très très localement sur la vallée du Rhône. Partout ailleurs, le soleil s'impose depuis ce matin. Le vent souffle toujours fort en Corse avec des rafales à 80-90 km/h. Le vent qui va tomber demain d'ailleurs sur l'île de Beauté. Et les températures de cet après-midi qui sont toujours 4 à 5 degrés au-dessus des moyennes de saison. 11 à 15 sont attendus sur la moitié nord, 14 à 17 au sud. Je vous donne quelques maximales juste pour le plaisir. 19 annoncés à Brive-la-Gaillarde, à Mont-de-Marsan, à Pau, à Tarbes et Avignon. 18 à Montluçon, à Cahors et à Biarritz. 17 à Embrun, à Carcassonne et à Marseille. 16 à Bordeaux et à Lyon. 15 degrés en région parisienne ainsi que dans la région de Lille. Et demain, même chose avec encore moins de bémols qu'aujourd'hui et des températures encore plus élevées.
Merci beaucoup Valérie Darmon pour ces bonnes nouvelles. On fait une pause et dans un instant, on se retrouve au cœur du Salon de l'agriculture avec mes deux invités. On va parler des défis auxquels doit faire face le monde agricole. Un monde en souffrance avec un agriculteur qui se suicide tous les deux jours, mais un monde qui veut aussi se réinventer avec le numérique.
Il est 12h48, votre journal de la mi-journée se poursuit depuis le stand France Terre de Lait au Salon de l'agriculture avec vous Fabienne Lemoyle et vos invités.
Effectivement Marlène, beaucoup de monde au cœur de ce hall 1 où nous accueille le stand France Terre de Lait. Vous êtes les bienvenus, je vous le répète, bien sûr, pour découvrir ce superbe studio. Vous l'avez dit Marlène, à mes côtés, deux invités. On va parler avec eux des défis auxquels doit faire face le monde agricole. Bonjour Jérôme Leroy.
Bonjour.
Vous êtes président de Winat, cofondateur de la ferme digitale. Et dans un instant, vous allez nous expliquer tous les atouts d'une agriculture connectée. Mais d'abord, je me tourne vers vous, Patrick Morin. Bonjour.
Bonjour, Fabienne.
Les auditeurs d'Europe 1 commencent à bien vous connaître. Vous êtes élu de Marmande, dans le Lot-et-Garonne. Vous n'avez pas hésité à prendre votre bâton de pèlerin une nouvelle fois pour une marche de 250 km entre Le Touquet et Paris. Vous êtes arrivé vendredi soir à Paris. Et si vous avez fait cette marche, c'est pour alerter sur un sujet qui, vous le dites, reste encore très tabou, le suicide des agriculteurs. Je crois qu'il y a un chiffre qui marque un suicide tous les deux jours.
Un suicide tous les deux jours, c'est énorme, oui. Alors c'est vrai que ces 250 km que j'ai pu parcourir sur 14 jours, naturellement, j'ai pu faire des rencontres magnifiques, des rencontres extraordinaires. Des agriculteurs, malheureusement, qui sont en souffrance, qui sont dans ce mal-être à l'heure actuelle de tout ce qui peut se passer aux alentours et puis pour eux. Des nuitées que j'ai passées aussi chez eux, on a pu faire des échanges formidables.
Qu'est-ce qui vous a marqué? De quoi ils souffrent le plus? De ne pas vendre leurs produits au juste prix, d'être traités pollueurs?
Voilà. De ne pas vendre, c'est la première raison de leur mal-être. De passer pour des pollueurs, c'est une deuxième raison aussi. De ne pas être compris de par le grand public, de par les Français en général.
On parle beaucoup d'agribashing.
On parle beaucoup d'agribashing. Et là, c'est un terme que je n'apprécie pas, mais c'est vrai que... J'ai pu m'apercevoir sur les 250 km que j'ai fait dernièrement, sur les 2000 km que j'ai fait depuis le début de la marche, j'ai pu m'apercevoir que tout le long de la route, tout le long de ces kilomètres...
Parce qu'ils vous ont hébergé, ces agriculteurs, tout au long de ces kilomètres.
Voilà. Mais à côté de ça, en parlant de l'agribashing, tous les déchets qu'on peut jeter, que les riverains peuvent jeter aussi à l'extérieur.
Alors vous êtes arrivé ici avec un vrai cahier de doléances et vous y teniez ce cahier de doléances, vous vouliez le montrer à Emmanuel Macron et vous avez vu le président hier soir. Qu'est-ce que vous lui avez dit?
J'ai vu le président, j'ai pu lui remettre dans ce cahier de doléances. Il a commencé à le feuilleter, il a regardé deux ou trois lettres et j'ai vu dans ses yeux qu'il a été très touché. Ça a été quelqu'un vraiment qui a pris avec profondeur les termes qui étaient sur différentes lettres.
Qu'est-ce que vous lui avez demandé en priorité? D'agir sur quoi?
Alors, en priorité, de pouvoir... J'ai remonté les informations, je ne fais que retransmettre ce que j'ai pu écouter, ce que je lui ai dit. Monsieur le Président, il faut absolument revoir le prix d'achat ou le prix de revient de tout ce que les agriculteurs peuvent mettre en avant. Le prix du lait, le prix de la viande, parce que ils sont loin de la réalité. Ils sont vraiment loin de la réalité.
C'est-à-dire, c'est quoi cette réalité? Qu'on cette comprenne réalité, bien. Quand vous dites que ce n'est pas le prix, le juste prix,
je
justement.
Je vais dire au niveau du lait, on va prendre cet exemple du lait. On leur achète, je parlerai en litres pour que ce soit beaucoup plus parlant, 30 centimes le litre. Et pour pouvoir vivre, pour eux, il faudrait qu'on puisse l'acheter 40 centimes. Il faut que
il faut rien lâcher, comme disait le président hier, c'est ça que vous lui dites?
Absolument, voilà, il faut absolument rien lâcher. Et il est tout à fait compréhensible, il va faire ce qu'il faut. Il fera ce qu'il faut.
À vos côtés, dans ce studio, il y a Jérôme Leroy. Vous êtes président de Winage, je le disais, cofondateur de la ferme digitale, ingénieur de formation, petit-fils d'agriculteur. Comment vous réagissez quand vous entendez cette souffrance dans le monde agricole?
Moi, c'est un milieu duquel je fais partie. On est pleinement impliqué avec mes 20 collaborateurs. C'est vrai que depuis que je connais l'aventure et le combat que porte Patrick, je constate les chiffres qui m'ont beaucoup impressionné. Nous, on essaye de donner des outils et des solutions aux agriculteurs.
Alors, on va rappeler ce que vous faites. Votre société, elle commercialise entre autres des capteurs pour aider à la prise de décision des agriculteurs. Mais en fait, ça s'inscrit plutôt dans un mouvement, l'idée de dire que le monde agricole, finalement, il est beaucoup plus connecté qu'on l'imagine. Parce que je crois que 90% des agriculteurs ont Internet, 70% un compte Facebook, 30% un compte Twitter. En quoi ça peut être une aide, justement, par rapport à cette souffrance qu'on a entendue? Sortir aussi d'une solitude, pouvoir échanger?
Voilà, exactement. Ce qu'on constate dans le numérique, c'est qu'effectivement, ça permet un fonctionnement collaboratif. C'est-à-dire qu'au sein d'une application, au sein d'une solution qui va permettre de vendre sur Internet, qui va permettre d'acheter sur Internet ou qui va permettre de partager des données météorologiques, agronomiques, scientifiques, les agriculteurs vont pouvoir partager au sein de cette application, se transmettre des informations, participer à des blogs communs de compétences où un agriculteur va rechercher une solution pour mieux irriguer des cultures. Un autre agriculteur va pouvoir s'abonner à cette communauté et ainsi améliorer et prendre des décisions plus faciles au quotidien.
Patrick Morin.
Et c'est vrai que c'est une bonne chose parce qu'ils sont dans une certaine solitude. Alors il faut vraiment développer le concept que vous mettez en place.
Pourquoi vous êtes lancé là-dedans, Jérôme Leroy? Après tout, vous étiez ingénieur de formation. Quelle idée de vous lancer dans ce monde de l'agriculture?
Alors moi, j'ai commencé par effectivement le côté scientifique. Puis après, j'ai voyagé pendant 10 ans à l'étranger. Je suis issu d'une famille d'agriculteurs, ou petit-fils d'agriculteurs. J'ai toujours eu une passion pour l'agronomie, pour le respect de la nature, le respect de l'environnement. Et quand j'ai décidé de créer mon entreprise, j'ai voulu rassembler mon expérience personnelle et ma vision professionnelle, ce que j'avais acquis. Et j'ai voulu mettre tout ça au sein d'un projet. Et donc j'ai recruté des agronomes, des électroniciens, des développeurs informatiques. Et je leur ai proposé un projet qui était d'aller proposer aux agriculteurs sur le téléphone mobile de la connaissance météorologique et agronomique pour aider l'agriculteur du matin jusqu'au soir.
En quoi ça l'aide?
Alors ça l'aide du semis à la récolte, ça l'aide à optimiser les quantités d'eau qu'il doit apporter sur la culture quand il a l'opportunité d'irriguer. Ça l'aide.
Donc on utilisait moins éventuellement?
On utilisait bien évidemment moins d'eau pour faire face aux restrictions d'eau, notamment dans le sud de la France.
Avec la sécheresse.
Avec la sécheresse. Ça permet aussi quand les parcelles qui doivent être traitées ou sur l'agriculteur doit se rendre, ça lui permet de choisir la bonne parcelle et gagner donc du temps, économiser aussi du gasoil, économiser du stress. Les premières remontées que mes clients me font, c'est mon mari, il est moins stressé. Pourquoi? Quand il part, il a les visions de ses parcelles, il sait qu'il ne va pas pleuvoir avant dans les 6 prochaines heures et donc il prend un petit peu plus de recul sur la gestion globale de sa ferme, technique, économique et financière.
Et là, Patrick Morin, on en revient aussi à cette idée, ce que vous avez vu sur le terrain, c'est effectivement un métier chronophage auquel on consacre 18 heures par jour,
oui,
très souvent.
Oui, et c'est 365 jours par an pour certains. C'est vrai que c'est une très très bonne chose de pouvoir bien développer auprès des jeunes principalement. Bon, on sait que sur les anciennes générations, ça sera beaucoup plus compliqué, hélas. Mais il faut y aller à fond quoi, dans ce principe.
Parce que Jérôme Leroy, vous me l'avez dit, l'agriculture, c'est évidemment un métier de demain.
Oui.
On nourrit la planète, c'est ce que vous me disiez.
Exactement, c'est un métier qui génère plus de 2 à 3 emplois sur 10 en France, dans toutes les étapes de transformation des matières premières agricoles. Et les consommateurs ont de plus en plus de demandes, sont de plus en plus exigeantes quant à la traçabilité, quant à la qualité des aliments. Et c'est aussi donc au monde agricole de se connecter encore mieux à ces demandes des consommateurs.
Et ça rejoint, Jérôme Leroy, ce que disait le président de la République hier à l'adresse des agriculteurs. Il faut que vous soyez les premiers militants de la transition écologique.
Exactement. Donc nous, la transition agroécologique, on la voit au travers des anciennes générations, parce qu'on a aussi des cinquantenaires ou des soixantenaires qui tiennent la barre de leur entreprise agricole et qui veulent transmettre à leurs enfants, à leurs petits-enfants. Oui. Et nous, on pense qu'effectivement, maintenant, les repreneurs d'exploitation en bio, d'exploitation de leurs parents, en transition agroécologique ou d'exploitation en conventionnel, eh ben c'est ces jeunes-là à qui il faut donner l'envie de faire le métier de chef d'entreprise agricole en assurant une rentabilité, une maîtrise de l'impact environnemental et aussi gagner du temps pour s'occuper de la famille, pour partir en vacances comme tout le monde, je dirais.
Et c'est ce que les agriculteurs recherchent.
Morin. Et donc, on voit que vos deux problématiques se rejoignent effectivement et se complètent complètement. Oui, vous êtes, je crois, Jérôme Leroy, sur un stand au Hall 4, au Salon de l'agriculture, ce qui montre l'importance de cette agriculture connectée. Je le rappelle, vous êtes donc président de Winat et cofondateur de la ferme digitale. Merci beaucoup, Patrick Morin. Juste un tout petit dernier mot. Votre sentiment ici au Salon de l'agriculture, l'accueil qu'on vous a réservé?
Eh bien, c'est la première fois que je viens au Salon de l'agriculture et c'est vrai que je ne peux être qu'en admiration déjà devant tous les stands, devant comment ça se passe. Et moi, personnellement, d'être accueilli comme je le suis, c'est formidable.
Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous pour ce journal de la mi-journée.